en parle. L'émission conso et services de RTS Première.
Oh, ça donne envie de participer, ça donne la pêche. Hein. Ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait d'une session de danse-thérapie animée par Gisèle Baradel, puisqu'on va parler d'art-thérapie sous toutes ses formes dans ce guichet avec vous, Catherine Rudiman.
Oui, danse-thérapie, musicothérapie, dramathérapie, tout cela entre dans la grande famille de l'art-thérapie qui comprend aussi les approches picturales ou plastiques, sont peut-être d'ailleurs les plus connues. Les liens entre art et santé intéressent de plus en plus les chercheurs. En 2019, l'Organisation mondiale de la santé a publié un rapport analysant 900 publications scientifiques qui explorent ces liens, avec cette conclusion sans appel: globalement, les arts ont le pouvoir d'agir sur la santé mentale comme physique. Alors, l'art-thérapie, comment ça marche? Comment trouver un ou une thérapeute? Et est-ce que c'est pris en charge par votre assurance maladie? On attend vos questions ou vos témoignages au 0800 108 208, par WhatsApp, Tréma, Signal ou encore Telegram au 076 206 12 12 ou par mail onenparle@rts.ch.
Et bonjour Sylvie Génoux-Rocha.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Vous êtes art-thérapeute à Lausanne et à la Vallée de Joux. Vous êtes aussi coordonnatrice et superviseuse à la Fondation L'Éveil à Lausanne, formatrice aussi à la Haute École de Travail Social de Lausanne ainsi qu'à l'Atelier à Genève. En fait, quand on parle d'art-thérapie, on parle de choses très très différentes. La danse-thérapie, on utilise le dessin, on utilise la musique. C'est quoi le point commun entre toutes ces approches d'art-thérapie ?
C'est une thérapie qui fait intervenir une création, qu'elle soit par le biais du mouvement ou matérialisée dans du plastique visuel, et qui permet à la personne de projeter son vécu dans cette création.
D'accord. Création forcément esthétique, artistique, ou ça peut être... C'est quoi la différence entre, par exemple, faire du bricolage, du jardinage, enfin une activité manuelle, et l'art-thérapie?
Alors, la création, elle est... Il vous faudrait reposer la question.
Alors, je ne sais pas, bon, je connais rien, hein, mais disons, pour moi, l'art, c'est à la fois quelque chose, c'est à la fois produire quelque chose, donc c'est un processus créatif, comme vous venez de le dire, et puis il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre du sens. Est-ce que l'association entre la création, créativité et le sens qu'on donne à ce qu'on crée, est-ce que c'est ça finalement le secret, enfin c'est ça finalement la clé de l'aspect thérapeutique de l'art-thérapie?
L'aspect thérapeutique de l'art-thérapie, il y a un témoin, en fait, il y a un accompagnant qui va observer et redonner ce qu'il a pu observer à la personne, au crayon. Et c'est ça qui fait que le crayon peut exister à travers sa créativité, au contact de sa créativité, et potentiellement mettre des mots sur un vécu ou sur une création, sur le processus en fait qu'il a vécu pendant le parcours créatif, pendant que son...
Oui. Donc l'art-thérapie, quand on parle d'art-thérapie, on parle de contexte où il y a quelqu'un qui est là, enfin un ou une art-thérapeute, c'est pas faire
ouais,
de l'art...
Ouais. Maintenant, oui. Ouais. Ça fait longtemps qu'on se rend compte que les arts sont... Ça date de l'Antiquité, hein, que l'art créé fait du bien. C'est venu aussi après la guerre, en 39-45, où les rescapés, ceux qui sont revenus, ils se sont rendus compte que de faire du théâtre, utiliser des masques, ça leur faisait du bien. Et puis progressivement, ça s'est spécialisé, c'est devenu de l'art-thérapie.
Sylvie Génoux-Rocha, donc vous êtes notre première invitée, et à vos côtés, Isabelle Mélan-Vidal. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes art-thérapeute spécialisée en musicothérapie et co-responsable de la filière des art-thérapeutes au HUG à Genève. Alors, l'art-thérapie, la musicothérapie, ce sont donc des approches qui sont aussi utilisées en milieu hospitalier, mais dans quel genre de contexte?
Alors, on est 7 art-thérapeutes aux HUG. J'ai des collègues qui sont en réhabilitation, j'ai des collègues qui sont à Bellerive pour les soins palliatifs. J'ai des collègues qui sont avec les ados et les enfants. Donc on est dans différents départements. Et moi, je travaille pour le département de psychiatrie, psychogériatrie. Voilà.
Et qu'est-ce qui est attendu de cette démarche, en fait? C'est quoi? C'est juste un passe-temps pour les malades ou il y a vraiment un aspect thérapeutique?
Alors, l'aspect thérapeutique, il est au centre. Si c'était un passe-temps, ça s'appelle une animation. Mmh. Là, ça s'appelle une thérapie. C'est-à-dire que thérapie, ça veut dire soigner et prendre soin. Donc, l'idée, c'est effectivement, on s'est bien rendu compte. Alors, si je parle, par exemple, de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire la psychiatrie, c'est qu'à un moment donné, les traitements médicamenteux n'étaient pas suffisants pour aider certaines pathologies. Donc, ils ont commencé à développer ou à faire la place à d'autres approches, d'autres médias, pour aider la personne, en fait, à exprimer sa souffrance de différentes manières. Parce que, en fait, la question centrale, elle est là, c'est de pouvoir exprimer la souffrance intérieure.
Mais ça va, on va vraiment mieux, justement, en utilisant l'art thérapie, plutôt qu'en passant par les thérapies classiques ou médicamenteuses.
Alors, attention, il y a rien qui est magique et miraculeux. Mm. Pour moi, c'est des prises en soins qui sont complémentaires à d'autres prises en soins. Mais, alors, comme disait ma collègue, l'histoire de l'art ou de la musicothérapie, ça date depuis le début de l'histoire de l'homme. L'homme a toujours utilisé la musique pour exprimer des mots, pour dans des rituels de naissance, de mort, de mariage, pour faire des ponts entre la vie et la mort. Ça a toujours existé. Il y a un tableau de Rembrandt qui existe avec le roi David, le roi Saul et David qui lui joue de la harpe pour l'aider à se calmer parce qu'il doit rentrer en guerre. Donc ça a toujours existé. L'homme a d'abord utilisé la musique et le rythme avant d'utiliser le langage verbal. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que oui, la musique, elle est thérapeutique en soi. Il y a des études depuis les années, fin des années 99, les années 2000, il y a eu énormément d'études sur musique et cerveau, etc., pour montrer l'impact. Donc on sait aujourd'hui, c'est prouvé qu'à l'écoute des musiques qu'on aime, le cerveau va sécréter des endorphines, des dopamines, etc., et ces hormones ont une influence directe sur l'état de stress, la dépression, etc. Après, donc la différence, comme disait ma collègue aussi, c'est qu'il y a un thérapeute dans l'histoire. Ça veut dire qu'il y a une personne qui va accompagner, qui va cheminer, qui va être témoin du processus. Ça veut dire qu'il va pouvoir aider la personne là où elle est à trouver un chemin intérieur et le pont extérieur pour exprimer cette souffrance psychique.
On est au guichet, vous êtes au guichet, on en parle avec Catherine Rittimann et ses deux invités, art-thérapeute Isabelle Mélan, art-thérapeute spécialisée en musicothérapie et co-responsable de la filière des art-thérapeutes au HUG à Genève, et Sylvie Génaud, art-thérapeute à Lausanne et à la Vallée de Joux, et formatrice aussi à la Haute École de Travail Social de Lausanne et à l'Atelier à Genève. Et on a reçu, Catherine, un premier témoignage.
On a reçu un témoignage de Nathalie de Genève qui nous dit qu'elle est elle-même art-thérapeute et qu'elle a bénéficié aussi elle-même de séances d'art-thérapie pour l'aider à surmonter des deuils multiples dans sa famille. Elle nous dit, cela m'a permis par des rituels et des créations qui engagent le corps, d'exprimer ce que la parole n'arrive pas toujours à dire. On hérite parfois des traumatismes de nos ancêtres et l'art-thérapie permet de libérer. Est-ce que c'est ça, au fond, l'art-thérapie? On sort de la parole, de ce truc très bilatéral avec un psy qu'on imagine sur un divan, enfin, ou nous-mêmes sur un divan, et puis c'est très figé, et puis là tout d'un coup on coupe la parole et puis il y a autre chose qui se passe, des émotions plus fortes qui peuvent sortir. Sylvie Génaud, pardon.
On met le corps en mouvement, en fait. On vient solliciter le corps, on invite la personne à observer ses mains, choisir un mode d'expression qui pourrait le mieux convenir à un élan spontané en lien avec un vécu. Et du coup, effectivement, la parole, elle est importante. Enfin, une fois que, pour présenter une création, par exemple, elle est importante pour mettre des mots dessus, c'est une deuxième mise à distance, on a une première extériorisation d'un vécu, et puis ensuite on vient le préciser, le mettre, le conscientiser avec des mots potentiellement, mais pas tout le monde travaille avec des mots, hein, à la fin. Et voilà.
Mais c'est forcément toujours le patient, la patiente qui crée quelque chose, ou bien on peut s'appuyer sur l'art, sur quelque chose que déjà créé pour, je sais pas, pour libérer la parole, pour dire, bah, par exemple, on regarde un tableau et puis on se dit, mais ça vous évoque quoi? Ou on écoute une musique et qu'est-ce que ça vous dit? C'est forcément le patient ou la patiente qui crée quelque chose, qui fait de la musique ou qui fait de la danse ou qui fait de la peinture?
La création, elle vient. Moi, j'aurais envie de dire qu'elle vient aussi. Le fait de regarder une œuvre d'art, ça peut avoir une vocation thérapeutique parce que ça vient toucher quelque chose. Donc, ça remet la personne dans le corps et dans l'instant présent. Mmh. Dès lors que la personne est touchée, alors là, elle peut contacter ses affects et ses émotions et puis les reprojeter dans autre chose, en fait, avec des mots.
Isabelle Mélan, justement, comment ça se passe chez vous, une séance de musicothérapie? Vous êtes musicothérapeute, justement.
Oui. Alors, peut-être juste pour rebondir aussi sur ce que vient de dire Sylvie. C'est vrai que la question, quand on a des blessures ou des traumas, on peut essayer de résoudre ça avec la tête, le cognitif, le mental, mais ça a ses limites. Je veux dire, on est pris dans notre boîte de compréhension du monde. La question, elle est aussi dans le psychisme. Et le psychisme, dans les origines, ça veut dire l'âme, le souffle de vie. Et le psychique, il est dans le corps. Donc effectivement, on va appréhender la personne dans une autre dimension, beaucoup plus globale et beaucoup plus universelle et beaucoup plus intime, les deux à la fois. Et du coup, la question...
La question, c'était comment ça se passe, oui, une séance de musicothérapie?
Donc, effectivement, il faut, la question, elle est de remettre la personne en mouvement. Une des caractéristiques, j'ai envie de dire, alors, si je prends juste la dépression anxieuse, une des caractéristiques, c'est que ça fige. Ça fige, ça renferme sur soi, et ça, ouais, voilà, ça nous coupe du monde. Donc, la vie, elle est vivante, elle est mouvement. Donc, l'objectif principal, c'est de pouvoir recréer ce mouvement de vie pour se réinscrire dans ce grand cercle. Donc, que les émotions qui sont vécues à l'intérieur, qui sont enfermées, qui sont bloquées, ou qui sont niées, qui sont etc., c'est de pouvoir les recontacter, effectivement, pour pouvoir les remettre en mouvement et créer ce pont, en fait, entre l'intériorité et l'extériorité. Si ça reste dedans, on en crève des colères ravalées, on en crève des larmes qui coulent à l'intérieur.
Mais donc concrètement, qu'est-ce qui se passe pendant une séance? Parce que vous avez parlé avant de la musique qui fait du bien, bah, c'est sûr, on a tous fait cette expérience d'écouter un morceau de musique qui change notre vie intérieure, oui. Mais est-ce qu'on fait aussi de la musique ou est-ce qu'on dans une séance de musicothérapie ou du son, peut-être on appelle pas ça forcément toujours de la musique?
Oui, musique, il faut déjà un certain niveau d'études d'instruments pour arriver à ça. Alors que, en fait, tout le monde peut faire de la musique avec des instruments extrêmement simples. Donc, il y a différentes manières. Moi, j'ai différentes manières de mettre mes patients en mouvement. Déjà, le premier instrument, c'est le corps et la voix. Ça, c'est notre instrument de vie. C'est notre bateau avec lequel on traverse la vie. Donc, déjà, par exemple, ce que j'aime beaucoup proposer à mes patients, c'est déjà, par exemple, de s'autoriser à crier. Donc, on fait des sons extrêmement graves. On va chercher connexion, affect, son, les faire crier pour que le vecteur puisse exprimer quelque chose. Donc, le premier instrument, le corps. Ensuite, dans la musicothérapie, il y a ce qu'on appelle réceptive. On écoute des choses qui vont toucher notre intériorité, qui vont nous permettre peut-être d'identifier des choses et ensuite de pouvoir y mettre des mots. Ou de jouer. De jouer sur des tambours, de jouer, on peut faire des improvisations en commun. Le tambour aussi, j'aime beaucoup parce que c'est un instrument qui permet une forte décharge de tension intérieure. Et c'est un instrument qui permet aussi de recontacter notre énergie, notre énergie vitale, notre force.
On va prendre un appel au 0800 108 208. Françoise, la composée de La Chaux-de-Fonds. Bonjour Françoise.
Oui, bonjour. Bonjour tout le monde.
Bonjour,
alors écoutez, je vais rebondir sur ce que disait madame tout de suite là, sur le corps et la perception des sons. Hein. Moi par exemple, j'ai joué du violon quand j'avais 7 ans. Ma maman m'avait emmené à un concert du bébé orchestre à Nyon, dans le canton de Vaud. Et puis j'avais eu envie de jouer, ben, quand on est enfant, hein, voilà. Et j'ai joué 2 ans, donc une année de solfège, voilà, après un petit violon pour enfants. Ben, malheureusement, après, mes parents sont venus à la Chaux-de-Fonds. Et puis, ben voilà, quand j'ai changé d'école, j'ai commencé l'école, puis je pouvais plus faire 50 choses en même temps. Donc j'ai plus jamais joué de violon. Mais, par exemple, encore maintenant, j'entends un violon, j'entends, je sais pas, un concerto de Mendelssohn pour violon. Ça fait vibrer. Je peux écouter ça le soir, tranquille, chez moi. Je sais pas si c'est l'imprégnation quand on est petit. Ça nous marque, vous savez, je crois que c'est, ça doit jouer un grand rôle. Et puis, ce qui est aussi important, c'est si vous allez dans la nature, vous vous arrêtez dans la forêt, vous asseyez sur une vieille souche et vous écoutez les oiseaux. Ça vibre, c'est des beaux sons, c'est comme de la musique, c'est la même chose. Je sais pas, je voudrais dire à la dame, là, ce serait chouette peut-être d'emmener ses patients dans les bois, puis d'écouter où il y a encore des oiseaux, où ils chantent. Voilà.
Alors, ça fait sourire Isabelle Mélan. Pour résumer, François, ce que vous nous dites, c'est que vous faites en fait de l'art-thérapie sans le savoir.
Sans le savoir.
Ouais, c'est un peu ça.
Quand je vous écoutais ce matin, j'ai dit, ben voilà, je fais de l'art-thérapie. Hier soir, j'ai écouté dans mon fauteuil, c'est confortable, le concerto de clarinette de Mozart. Puis ça, c'est magique, vous savez, la clarinette, c'est des sons qui touchent.
Merci de nous avoir appelés, d'avoir partagé tout cela avec vous.
Merci pour votre émission, avec nous. Tous les jours, c'est super.
C'est très gentil à vous, merci, une très bonne journée à la Chaux-de-Fonds.
Merci.
Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, ce que nous dit Françoise? Moi, ce que je retiens de ce qu'elle dit, c'est que ça réveille des souvenirs. Est-ce que l'art, ça peut aussi réveiller des souvenirs, Sylvie Génoux? Est-ce qu'on peut, on joue aussi sur les souvenirs qu'on a de l'enfance, de telle ou telle musique, de tel ou tel souvenir qu'on a de dessin, par exemple, ou de peinture?
Mais bien sûr, l'art, la création, alors là, le lien à la nature est super important. Donc oui, ça peut faire émerger des souvenirs, des images aussi de scènes complètes, enfin de rêves, c'est vraiment, ça parle à notre intérieur, à notre sphère intime. Et en fait, madame vient de s'exprimer sur le chant des oiseaux et ça correspond aussi à une pratique qui s'appelle le Landart, donc on utilise dans l'expression que j'utilise comme outil en art-thérapie quand on a envie d'aller dehors, quand il fait beau. Mmh. Et parce que les personnes qui peuvent se reconnecter, enfin, dès le moment où elles se reconnectent à la nature extérieure par le chant d'un oiseau, ça leur permet de se connecter avec une partie d'elles-mêmes, avec un affect, avec justement une nouveau là-dedans, on revient dans l'instant présent et on est réceptif. Et ça fait du bien.
Je crois que cette question de Françoise qu'on a eue à l'instant au téléphone s'adressait aussi à vous, Isabelle Mélan. Elle vous appelait à emmener vos patients dans les bois, écouter les chants des oiseaux. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Et d'ailleurs, vous les appelez à crier d'abord. Est-ce que vous faites ça où? Dans les bois ou dans une pièce capitonnée? Comment ça se passe?
Non, je fais ça dans une salle à l'UCPT, l'endroit où je travaille.
Bien isolée, j'espère.
Bien isolée, moyennement, mais mes collègues me connaissent, donc elles sont pas alarmées. Je rebondis juste sur ce, elle parlait du violon et du corps, oui, parce que dans notre corps physique, en fait, notre corps physique contient notre corps émotionnel, notre corps affectif, notre corps de mémoire, etc. Donc bien sûr que ça va chercher les souvenirs, et puis dans nos identités sonores, quand on était déjà fœtus, on entendait déjà à partir du 5e mois, on entendait déjà le son de la voix de sa mère, les bruits intestinaux, les battements cardiaques, la voix du père si le papa était là. Donc effectivement que notre identité sonore date de bien avant notre naissance. Et puis concernant le chant des oiseaux, donc malheureusement j'ai pas la possibilité d'emmener mes patients en forêt, je leur parle souvent de ça. Par contre, là où je travaille, nous avons les fenêtres ouvertes et puis c'est dans la cité à Genève, mais il y a quelques arbres et on entend les merles. Et le nombre de fois on fait silence et je leur dis, écoutez, Écoutez ce que dit le merle.
Ça donne presque envie d'ouvrir la fenêtre du studio pour entendre les merles dehors. Mais je ne sais pas s'ils sont là. Ils sont plus matinaux, je crois.
Je ne suis pas sûre qu'on les entende dans les micros et qu'on puisse vous les transmettre à vous qui nous écoutez. Isabelle Mellon, on revient aussi à cette question de, en fait, qu'est-ce qui fait la différence entre faire écouter soi-même la musique, pratiquer chez soi ou faire appel à un thérapeute, est-ce que les personnes que vous voyez, elles sont peut-être allées trop loin dans la souffrance mentale, elles sont un peu bloquées et il faut quelqu'un pour qui soit là pour les remettre en mouvement. Est-ce qu'on pourrait dire ça?
Oui, il y a quelque chose comme ça. L'art est thérapeutique en soi et la musique est thérapeutique en soi. Mais effectivement, ce qui va changer, c'est le thérapeute. Ça veut dire que c'est une personne qui a une spécialisation dans le domaine du soin et d'une démarche, d'un processus thérapeutique. Donc, la personne peut se déposer déjà dans sa souffrance avec une demande, des attentes, etc. Et puis, il y a un accompagnement. Oui, c'est ça le fondamental de la... Peut-être que ça va parler à certaines personnes. En tout cas, moi, ça m'est arrivé moult fois dans ma vie où, par exemple, tout d'un coup, j'étais triste à la suite de X épisodes. Et puis d'écouter une chanson pendant des heures et des heures, mais une chanson triste. Donc j'étais triste et pendant des heures j'écoutais cette chanson parce que en fait il y a une nécessité chez l'être humain de trouver une espèce d'écran projectif extérieur pour exprimer, extérioriser sa souffrance. Sinon, on est enfermé dans une forteresse.
Comme un miroir.
Comme un miroir, mais c'est le contact à l'humanité. Si on est enfermé à l'intérieur de soi, puis qu'on a l'impression que personne nous comprend, je veux dire, on se déconnecte de l'humanité, du vivant et de la vie.
Ouais, je vous vois acquiescer, Sylvie Génaud.
Oui, alors du coup, le fait de pouvoir projeter ce vécu et de pouvoir le voir, faire connaissance avec peut-être une souffrance ou même une joie. Ça permet, et je sais plus ce que je voulais
dire. On va mettre un peu de musique.
Ça permet, trois petits points.
Voilà. Ça permet le chant des oiseaux.
Voilà. Peut-être, dites-le nous, finissez la phrase de Sylvie Génaud, appelez-nous pour 0808-208. Qu'est-ce que ça vous a permis, vous, l'art-thérapie, si vous l'avez expérimenté? Nous parlons d'art-thérapie avec Isabelle Mellon-Vidal et Sylvie Génaud-Rocha, qui sont toutes deux art-thérapeutes spécialisées en musicothérapie pour Isabelle Mellon et art-thérapeute à Lausanne et à la Vallée de Joux, et formatrice aussi pour Sylvie Génaud-Rocha. Et nous accueillons Xenia, qui nous appelle de Genève au 0800 108 208. Bonjour Xenia.
Bonjour, je suis ravie. Et tout ce que vous avez exprimé, mesdames, résonne très très fort en moi.
Oui, pourquoi?
Pourquoi? Je suis patiente partenaire au HUG et je fais partie d'un groupe de co-création de visites muséales. Donc nous allons au musée avec des patients en réadaptation cardiaque. C'est-à-dire ils vont à pied au musée, ils ont une visite VIP et souvent un atelier créatif ensuite.
Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites avec eux au musée?
Pendant la visite VIP que nous préparons en amont, parce que c'est pas une visite sans construction, comme c'est des patients en réadaptation cardiaque, nous touchons des sujets qui ont lien avec leur vécu, avec leur maladie.
Mmh. Mais vous avez un exemple, vous avez des exemples à nous donner?
Oui, ça peut être le festin de la vie, ça peut être sur la mort, pourquoi pas, pour enlever les tabous. Ça peut être sur le corps et la gravité. Alors, il y a des moments où on bouge beaucoup, on fait bouger les patients. C'est des sujets vraiment préparés pour réveiller des émotions, pour qu'ils puissent exprimer leurs émotions et puis être créatifs. Et moi, l'art et la créativité va souvent sauver la vie. L'écriture, l'expression artistique.
Mais quel est le rôle, pardon de vous interrompre, Xenia, mais quel est le rôle de ce que vous voyez au musée? Quel est l'intérêt d'être au musée pour faire ça?
Parce qu'il y a une résonance avec les œuvres qui sont là, et puis qui résonnent avec leur propre vécu.
D'accord, donc c'est une sorte de visite guidée, mais un peu thérapeutique. Vous n'êtes pas art thérapeute vous-même, hein, vous êtes patiente partenaire, vous,
non,
vous l'avez dit.
Pas, je n'ai pas la formation, pas la formation. Mais c'est un peu, ce n'est pas le même travail. Ouais. Mais par exemple, si nous sommes au musée d'ethnographie devant des objets réparés, africains par exemple, qui sont des objets réparés parce qu'ils ont beaucoup de valeur, on peut communiquer, on communique pas, mais les patients sentent que un objet réparé, comme eux ils sont réparés, peut avoir plus de valeur qu'avant. Ou les objets réparés par kintsugi, donc l'art japonais de réparer avec de
l'or,
la peinture de l'or, l'objet a plus de valeur et est plus important après la réparation qu'avant. Donc ça, c'est des choses qui parlent très fort aux patients.
Intéressant hein, ce que vous nous dites, Xenia. Je vois Isabelle Mélan songeuse par rapport à ce témoignage. C'est quelque chose que vous connaissiez, cette pratique des partenaires, des patients partenaires qui emmènent justement des patients au musée.
Oui, absolument, parce que c'est vrai que les HUG, ils font beaucoup la promotion depuis quelques années de l'art à l'hôpital. Donc il y a l'art à l'hôpital et il y a les arts thérapeutes. Donc il y a des similitudes et des complémentarités, des différence. Mais qu'effectivement, cette question de faire intervenir l'art à l'hôpital ou de sortir les patients, puis comme dit madame, d'aller au musée, c'est quelque chose qui existe. Et effectivement, je pense que la question fondamentale, elle est dans stimuler ou remobiliser le potentiel créateur de l'individu. Mais ça veut pas dire être artiste et créer. La créativité, c'est pouvoir rebondir aux événements de la vie. C'est pouvoir tricoter quelque chose, transformer. Et ça, effectivement, il faut une force et ce principe de pouvoir transformer quelque chose comme une recette de cuisine. C'est ça la créativité, fondamentalement. Donc je comprends tout à fait ce que dit madame.
Isabelle Mélan, d'ailleurs, il y a différents services des HUG qui font appel à des arts thérapeutes. Vous nous avez dit qu'il y en avait combien ? 7 ou...
Alors, nous, on est 7 arts thérapeutes.
Ah, voilà, chez vous, mais il y a différents services qui font appel à des arts thérapeutes. Ça couvre quel genre de pathologie ou de... on pourrait utiliser l'art thérapie dans quel domaine, dans quel cas de figure ?
Alors... essentiellement, disons, par rapport aux problèmes psychiques, que ce soit chez les enfants et chez les adolescents, que ce soit en crise, que ce soit en oncologie, par exemple, des personnes qui sont en dépression par rapport à devoir encaisser la maladie. Voilà, donc c'est dans différents départements et différents services.
Et Sylvie Génaud, vous êtes spécialisée en réinsertion professionnelle, c'est juste à l'éveil, vous voyez principalement des gens qui sont en rupture professionnelle, donc là aussi l'art-thérapie a des bienfaits. Est-ce qu'il y a des domaines où c'est pas recommandé, où il y a même des contre-indications ?
Mais moi j'ai envie de dire que non, je pense qu'on peut utiliser... Alors, pour autant qu'on ait reçu une bonne formation digne de ce nom, en Suisse, on a des super formations, enfin deux en tout cas en Suisse romande, et un diplôme fédéral qui vient valider ce parcours pratique. Mais
est-ce qu'il y a des... Oh, je ne sais plus ma question non plus. Est-ce qu'il y a des domaines où il y a des contre-indications? Voilà.
Non, je pense qu'on peut utiliser tout, mais il faut connaître les outils, enfin les modes d'expression, et puis savoir quel effet ils peuvent avoir sur les personnes. Donc en fonction de la situation, par exemple, peut-être avec quelqu'un qui a des tonos psychotiques, je ferai attention à comment j'utilise des modes d'expression qui... qui se dispatchent, enfin qui sont pas, je vais utiliser quelque chose qui va recentrer, qui va ramener la personne à elle, puisqu'elle a déjà des parties d'elle un peu clivées et tout.
Ouais.
Voilà. Je pense qu'il faut juste être très conscient de comment on utilise le matériel et quel effet ça a sur la personne.
Alors, pas mal de questions, ou en tout cas d'interventions reçues par mail.
Oui, d'ailleurs, il y en a deux là qui répondent un peu à ce que vous dites, enfin qui font écho à ce que vous dites. On a reçu ce témoignage qui dit « Mon fils a fait de l'art-thérapie étant petit, il devait colorier alors qu'il détestait ça, il a arrêté d'y aller sans que la thérapeute essaye d'autres méthodes, dommage. Donc est-ce que ça convenait pas à cet enfant ou est-ce qu'il faut tester d'autres choses ? On a quelle marge de manœuvre ? En tant qu'art-thérapeute, vous êtes musicothérapeute Isabelle Mélan, donc j'imagine que vous restez dans la musicothérapie. Sylvie Génaud, vous êtes plutôt dans les arts picturaux, plastiques. Mais vous avez quelle marge de manœuvre en fait pour sortir un peu du champ, pour essayer d'autres choses, Isabelle Mélan?
Je pense qu'il y a effectivement la question, c'est quand on a une problématique, une souffrance et qu'on veut travailler ça. Il faut aller déjà par affinité. C'est comme si on va chez un psychologue. Il y a un psychologue qui va peut-être nous convenir et puis un autre, on aura moins d'affinité. Déjà, ça, c'est à la base. Ensuite, après, effectivement, par rapport aux spécialités, aux spécialisations de l'art-thérapie, il y a des gens qui vont se sentir peut-être plus à l'aise dans le pictural, des gens qui vont se sentir peut-être plus à l'aise dans le corps, dans cette thérapie, puis d'autres en musique. Donc déjà, il faut peut-être sentir soi-même dans quelle direction on a envie de mener son chemin thérapeutique et son développement personnel.
Donc on tient compte des affinités des personnes avec oui. lesquelles on travaille.
Oui, oui. Alors après, là, moi où je travaille à l'UCPT, les patients, quelque part, ils n'ont pas le choix. Parce que c'est un programme de soins avec un programme groupal préétabli par intensité sur un jour, deux jours, trois jours. Donc ils n'ont pas le choix. Ils vont faire des groupes. Mais La question, c'est là où si la personne elle a des difficultés avec un son, une musique, etc. Ok, on en parle. Pourquoi, comment, à quoi ça fait résonance? Si la personne ça la met en colère, ok, ça veut dire qu'on touche peut-être quelque chose d'important qui fait partie de la problématique de la personne.
Sylvie Génaud, dans votre cas, donc arts picturaux, plastiques, là on a peut-être un peu plus de marge de manœuvre dans le cas qui nous est décrit.
Mais c'est ça, mais en fait ce qui m'a parlé, c'est que elle parlait d'un enfant. Le jeu, c'est une super porte d'entrée pour travailler avec des enfants. Donc à partir du moment où l'enfant est en train de jouer, je cite Winnicott, l'espace transition, transitionnel, eh bien l'espace jeu, le gamin il va jouer son trait, il va jouer son mouvement, son geste, il va jouer avec les marionnettes, il va pouvoir prendre le rôle de celui qui l'empêche d'être qu'il a besoin d'être, il va voilà, le jeu pour
donc reprendre. L'utilisation du jeu, ça fait aussi partie de l'art-thérapie.
Oui, et même avec les adultes, parce que avec les adultes, c'est une porte d'entrée sur prendre contact avec l'enfant intérieur.
Dans le cadre de vos ateliers, vous avez comment on peut s'imaginer ça? En fait, les gens ont quoi à disposition comme matériaux, comme médium?
Ouais, ils ont de la peinture, donc de la gouache, de l'acrylique, des différentes textures, de peinture à différentes textures, du pastel gras, du pastel sec. Ils ont de l'argile, donc la terre. Ils peuvent faire du modelage, ils peuvent s'exprimer à travers des peintures plus fluides, un peu aqueuses comme l'aquarelle. Il y a le photolangage. C'est vrai que si
le photolangage, c'est quoi?
C'est des images que la personne va utiliser, va choisir en fonction de ses affinités justement, de nouveau avec une image, comme on disait au début, une œuvre d'art et tout, va choisir une image qui fait écho à un vécu et du coup elle va expliquer pourquoi elle a choisi cette image et du coup indirectement elle parle d'elle-même en fait, elle parle de son propre vécu mais c'est moins confrontant pour elle de parler de l'image et de ce qui se passe dans l'image que de parler directement de ses troubles, de ses difficultés à elle ou de ses gènes.
Autre message reçu, Catherine?
Oui, je parlais d'une deuxième question qui faisait écho à ce qui avait été dit. On nous demande, en fait, est-ce qu'il y a un contrôle des personnes se prétendant art-thérapeute? Quelqu'un nous dit, j'ai eu la chance de tomber sur une personne extrêmement compétente à Berne. J'ai entendu parler de soi-disant professionnels qui sont dangereux en n'ayant pas les qualifications nécessaires. Par exemple, une personne qui reprochait à son client de ne pas bien dessiner ou de ne pas dessiner ce qu'elle demandait. Effectivement, ça semble pas être le message que vous nous donnez aujourd'hui. Cette personne nous dit encore, un art thérapeute n'est pas là pour dénigrer et détruire, mais pour aider le client. Qu'est-ce que vous pouvez répondre? Est-ce qu'il y a un contrôle des art thérapeutes? Comment on trouve un art thérapeute, une art thérapeute, Isabelle Mélan?
Oui, alors bah moi je suis désolée effectivement de cette expérience. Oui, il y a des peut-être des moins bons ou pas qualifiés art thérapeutes ou thérapeutes tout court dans tous les corps de métier, c'est comme ça, sauf que là l'enjeu il est quand même dans les relations humaines. Donc c'est quand même un peu plus dramatique si on tombe sur un professionnel qui n'est pas voilà. Dans la juste mesure de ses compétences. Donc, il y a l'ODA Arte Cura qui a mis en place à partir de 2011 ce qu'on appelle le diplôme fédéral des arts thérapies, donc des 5 spécialisations reconnues sur le plan fédéral, pour pouvoir justement légitimer cette profession, mais également pour pouvoir avoir un niveau d'exigence par rapport aux formations, parce qu'on va toutes faire nos formations dans des écoles différentes. C'est à l'école de musicothérapie. Les plastiques, elles vont à Genève et
à l'HETSL.
Ouais, exactement. Et il fallait bien, à un moment donné, avoir un tronc commun, et puis des exigences et des compétences et des spécificités communes élevées à un niveau fédéral, d'un diplôme fédéral. Donc, comment, à votre question, comment trouver une art thérapeute? Eh bien, c'est soit vous allez sur les sites professionnels comme l'ASCA ou le RME, qui sont les sites de médecine complémentaire. Vous pouvez ici, sur ces deux sites, il y a toute la liste des arts thérapeutes. Vous pouvez passer par l'ODA Arte Cura, qui a aussi la liste des arts thérapeutes diplômés.
C'est quoi, une association professionnelle?
Oui, ça fait partie. Ils ont mis en place le diplôme fédéral avec le CEFRI. Mm-hmm. Donc c'est une association professionnelle.
C'est la fêtière, en fait.
C'est la fêtière, d'accord. Ouais, qui regroupe toutes les associations. Et puis, soit, alors vous allez directement auprès de votre assurance et vous demandez la liste des arts thérapeutes reconnus et remboursés par l'assurance. Par l'assurance complémentaire, par exemple, vous pouvez dire, voilà, je cherche une art thérapeute près de Morges, et votre assurance, normalement, a la liste des arts thérapeutes qui sont près de chez vous et qu'elle peut rembourser.
Oui, ça coûte combien une séance d'art thérapie, en gros?
120 francs.
Donc,
autant de vaut, ouais.
Et c'est remboursé par seulement les complémentaires, ou parfois la malle peut entrer en jeu?
Non.
C'est que les complémentaires. D'accord, ça, c'est pour répondre à la question,
ouais,
d'un auditeur ou une auditrice, hein, qui nous posait la question par mail. On parle d'art thérapie dans les quelques minutes qui nous restent au guichet. On en parle avec les deux invités de Catherine Ruttimann, Isabelle Mélan et Sylvie Génaud, toutes deux art thérapeutes, et avec vous qui nous appelez ou qui nous écrivez. Et on va tout de suite prendre un téléphone, celui de Valérie de la Tour de Paix. Bonjour Valérie.
Oui, bonjour à tous. Sylvie, tu me reconnaîtras.
Ah, c'est clair. Salut Valérie.
Ah, on se reconnaît entre... Pourquoi? Vous êtes art-thérapeute, voilà, aussi, Valérie?
Non, je suis pas art-thérapeute. Non, je suis une infirmière qui a fait un burn-out. Et puis, dès mes premiers signes, j'ai tout de suite été... Je suis une art-thérapeute. Et le fil du temps a fait que j'ai aussi rencontré Sylvie. Mmh. Tout ça pour vous dire que l'art m'a vraiment réveillée, révélée, voir qui j'étais à l'intérieur. Donc, mon intérieur me relie à moi. Et pas toujours d'être à l'extérieur. Et puis, les différents moyens ont été vraiment à travers la peinture, le modelage, la voix. J'ai cette chance de chanter depuis très longtemps avec des femmes, et ça aussi, un cœur de femme, ça fait une thérapie. tout ça pour dire que la mise en forme...
Ah, Valérie,
est très importante. Oui.
Ah oui, ça a coupé. On a perdu un petit 2-3 syllabes de votre phrase, mais on comprend le sens, plus ou moins.
Alors, je disais que oser se réveiller à travers l'art, ça ne veut pas dire, comme je l'ai entendu, c'est dire savoir faire quelque chose de beau, quoi. Mmh. Moi, c'est la première chose que j'ai dû apprendre, à lâcher et laisser sortir. Puis au moment où on laisse faire, c'est quelque chose de formidable, quoi. Donc, et la nature aussi m'a énormément aidée. Le land art, ou même simplement se balader, écouter. En fait, je vous dis tout ce qui a déjà été dit.
Mmh.
à la radio, de ce que j'ai pu entendre, mais le simple sens de se poser est aussi une caresse qu'on reçoit à son âme, qui fait énormément du bien, et après l'expression artistique vient tout seul, quoi. Donc voilà, et puis grâce à ça, c'est que tout gentiment, ben, j'ai eu l'occasion de pouvoir m'exprimer dans différents ateliers pour accompagner des gens de tout âge. Là, pas longtemps, là, j'ai fait un remplacement dans un CAT, dans un centre d'accueil temporaire pour les personnes âgées, et j'ai utilisé des simples choses, par des simples gestes et un simple accompagnement, ça, on voit qu'il a une résonance, et c'est un cadeau. Voilà.
Voilà, donc ça vous a aidé, et maintenant vous l'utilisez pour aider les autres.
Je suis en train de construire. Ouais.
Merci de ce beau témoignage, Valérie, de la Tour de Paix. Ça vous inspire un commentaire, Isabelle Mélan, Sylvie Génaud?
Moi, je reconnais Valérie dans son approche de la nature. Elle passe par la nature. Elle a comme une casquette de praticienne en éco-rituel qui vient s'ajouter et compléter son parcours à elle. Et puis c'est très complémentaire avec l'art-thérapie, effectivement.
Alors, on n'aura pas le temps de prendre ce téléphone parce qu'on arrive déjà bientôt au bout, mais une dernière question peut-être un dernier
témoignage, mais qui appelle des questions de ma part. Mais Gisèle qui nous dit, n'oubliez pas de parler de la biodanza, méthode Rolando Toro, 1982. Je ne sais pas si ça vous parle, je vous vois faire des grimaces. Isabelle Mélan, Sylvie Génaud, l'une de vous connaît cette approche. Il y a beaucoup d'approches, hein, dans l'art-thérapie. C'est très vaste et riche.
Oui, alors c'était une gentille grimace. Hein. Non, c'est-à-dire, ouais, moi j'en parle, je sais à peu près ce que c'est, j'en parle pas parce que je suis pas experte là-dedans, et que pour moi, si je reviens maintenant à ce qui a été légiféré sur le plan fédéral, ça fait pas partie de l'art-thérapie. Il y a 5 spécialisations, voilà. Mais la biodanza, effectivement, est une méthode extraordinaire qui met le corps en mouvement, aussi d'une manière, voilà, qui va chercher profond, et puis qui est, voilà, une méthode thérapeutique.
C'est de la danse, alors, biodanza?
Oui, non? Oui.
Ok. Oui. D'accord, mais c'est pas de l'art-thérapie, d'après ce que vous nous dites.
Pas au sens actuel, disons, où c'est défini actuellement. Voilà.
D'accord. On a juste cette dernière question. Alors là, je vous demanderai d'être très très courte parce qu'on n'a pas eu le temps de prendre ce téléphone de Noah Vidal de Nyon qui nous dit, est-ce que le fait de pratiquer plutôt que d'en écouter la musique aura un impact sur le développement du cerveau et sur le bien-être?
Oui, alors bonjour Noah, merci pour cette question. Donc oui, effectivement, quand on est... La musique, elle va de toute façon solliciter tous les airs cérébraux. Hémisphère gauche, hémisphère droit, etc. Donc de toute façon, il y a une activité cérébrale qui est suractivée, une plasticité neuronale qui se développe. Donc de toute façon, la musique, ça fait du bien.
La musique, ça fait du bien. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci Isabelle Mélan et Sylvie Génaud, toutes deux invitées par Catherine Ruttimann. Isabelle Mélan, je rappelle que vous êtes art-thérapeute spécialisée en musicothérapie au HUG à Genève, et Sylvie Génaud, art-thérapeute à Lausanne et à la Vallée de Joux. Isabelle Mélan.
Oui, juste rapidement. Bonjour à mes collègues, à Nadia Gardigeon et à Jérémy Favre.
Le bonjour est passé.